rêve, je me régale, glou, 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 glou. Ils sont très bons, tous les vins de cette cave, surtout le cru turc et le terré. 1991, c'est le meilleur cru. Oh, mais je veux m'arrêter parce que j'ai assez bu comme ça.
À la cave, Eva Kala. À la cave, Eva Kala. Et plus encore, Eva Kala à la cave. Eva Kala à la cave. Un double palindrome doublement réversible.
Oups.
Et voilà, un petit palindrome de Gérard Durand, le tout après l'indicatif radiophonique de Radio Libertaire qui existe maintenant depuis 40 ans, et si mes souvenirs sont exacts, c'était effectivement l'orgue barbare, de Claude Reboul qui avait été enregistré par Julien pour les besoins de Radio Libertaire dès sa création. Quelques petits, je me souviens, histoire d'entamer l'émission d'aujourd'hui. Je me souviens que le Vatican n'est pas plus grand que le Père Lachaise, et moins bucolique, mais là-bas, il n'y a personne pour vous demander le chemin de Jim Morrison. Je me souviens de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Lacrymo. Je me souviens que j'ai tout oublié des campagnes d'Austerlitz, de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau, mais pas de la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme il nous était cher? Je me souviens d'au moins quatre orthographes différentes du mot « oignon » sur les ardoises des commerçants des marchés, boulevard Mortier, boulevard Sémurier. Je me souviens de l'image d'un orang-outan dans la jungle indonésienne, tentant de s'en prendre au bulldozer qui vient d'abattre les arbres de sa forêt. Je me souviens de Karim et Bruno, sans se connaître, utilisaient le même vocable pour dire « on va manger », ils disaient « on va grognaffer », issu d'un personnage de dessin animé de leur enfance. Je me souviens de « La nuit, tous les gilets sont gris ». Je me souviens de « Fin du monde, fin de mois », »,« Même coupable, même combat ». Je me souviens de l'écrivain du Manchard au métro Rambuteau, « Trop moche pour me prostituer, 1 euro s'il vous plaît ». Je me souviens du « Printemps bizarre » de Tristan Edern-Vaquette, inauguré à la Flèche d'Or, rue de Bagnolet, avec par la suite de multiples artistes surprenants dans des lieux alternatifs de tout l'Est parisien, y compris le peintre Natto. Je me souviens que c'est face à une partition de la Javanaise de Serge Gainsbourg, achetée au Disco Ball, gare Saint-Lazare, ici, que j'avais tout à coup compris. Sur la deuxième portée, putain, il y avait plusieurs notes à jouer à la fois. J'allais avoir besoin de tous mes doigts pour essayer de jouer du piano. C'est là que j'ai compris que c'était foutu pour moi. Et en plus, au-dessous, il y avait une troisième portée avec une clé que je ne connaissais même pas. Je me souviens de « La lutte, c'est classe. La lutte, c'est classe contre classe. » Je me souviens que c'est enfin sur Internet que j'ai pu voir Tango. Tango, le court-métrage de Zbigniew, avec des personnages de plus en plus nombreux, répétant tous le même geste dans une pièce exiguë, sans qu'aucun ne percute la trajectoire d'un autre. Alors que c'est dans les années 80 que j'avais lu une chronique alléchante dans Fluide glacial, dans le zootrope épatant. Je me souviens qu'Ornicard passe son temps à se perdre et nous à le chercher. Je me souviens de la photographie de Jacques Prévert devant le panneau de la station Mérode à Bruxelles, avec sa tête qui cachait fort judicieusement la lettre O. Je me souviens qu'Alain, rangé sous le comptoir de près de la bibliothèque, le grand livre des disponibles, édition de 1986, dans laquelle étaient référencés en une ligne à chaque fois tous les livres imprimés par tous les éditeurs. Une somme qui vous donnait envie de voyager. Je me souviens d'un ancien élève qui m'avait envoyé, à la librairie du Monde Libertaire, seule adresse qu'il avait pour moi, une carte postale représentant l'archevêque de Canterbury, maintenant plus en poste. C'est ainsi que j'ai découvert que j'étais le sosie parfait de cet anglican célèbre, jusqu'aux sourcils rebelles et au choix des lunettes, avec 10 ans de décalage, ce qui me permet maintenant, avec Internet, de connaître le visage que j'aurai à la décennie suivante. Je me souviens d'une interview des non-tropos. Ils avaient passé un quart d'heure à se songer, revêtant leur longue robe de bure de couvent, afin de ne pas tricher et d'être dans l'esprit de leur spectacle, même pour une interview radio. je me souviens de « Moins d'État policier, plus débat polisson ». j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Je suis pas en train de m'adresser aux autres membres de l'émission autour de la table, mais je cite effectivement cette chanson de Brassens, interprétée ici par La Bise à Madame. C'était un de mes coups de cœur de l'an dernier, ça continue cette année. La Bise à Madame, je sais plus ce que je vous avais passé comme version de Brassens par ce groupe avec plusieurs instruments, un rythme chaloupé, une chanteuse délicieuse et avec un petit côté punk quand même dans ses façons d'être sur scène. Je sais plus ce que je vous avais déjà passé, mais en tout cas c'est délicieux comme de retremper les doigts à nouveau dans un pot de confiture, donc je vous en passerai peut-être d'autres aujourd'hui. Amis autour de la table, présentation habituelle, salutations anarchistes et bien le bonjour.
Moi étant à l'honneur, c'est moi, Ariel. Voilà, donc nous revenons avec Yves Lecard et on va lire aussi l'hypofable, l'hypogrammé de Gérard Durand.
Alors, je commencerai avec des fragments de poèmes de Sergueï Sénine. Suivi d'un poème sélectionné par Daniel Gélin, et s'il y a le temps, un poème de mon grand-père.
Michel,
je suis venu avec un recueil des œuvres de Marcel Schwab, et donc je pense lire une.
C'est un recueil bien.
Oui, oui, il y a la majeure partie de ce qu'il a écrit, puisqu'il n'a il a pas vécu assez longtemps, mais c'est déjà pas mal.
Et ce n'est que le premier tome, peut-être.
Non.
C'est l'intégrale, heureusement.
À peu près.
On ne sait jamais, il y a deux gros pavés comme ça.
Oui, combien de pages ?
Alexandre Dumas, à l'époque, il fallait avoir un panier à roulettes pour transporter la quantité. Voilà. Donc, et ça va commencer par La Fontaine, et moi je l'hypofablerai après.
Alors, le chien qui lâche sa proie dans l'ombre. Chacun se trompe ici-bas, on voit courir après l'ombre, tant de fous qu'on ne sait pas, la plupart du temps, le nombre. Au chien dont parle Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en loup représentée, la quitta pour l'image, et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords, et n'eut ni l'ombre, ni le corps. Livre 6, fable 17.
Le chien qui perdit tout pour l'ombre. Tout être se tombe sur terre, et l'on peut voir poursuivre l'ombre, trop de fous, et l'on ne peut guère, bien souvent, en dire le nombre. Le chien que cite Ésope, ici, sire, oyez ce chien dont le butin, en l'ombre reflété, le quitte pour son double, et croit bien se noyer, et le rue, devenu troublé, précipité, forbu, recru, il s'enfuit vers les bords, et n'eut ni l'ombre, ni le corps.
Autrefois le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la ville que firent ses deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rasant campagne aussitôt. Et le citadin de dire, achevons tout notre rond. C'est assez dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre.
rat débile et le rat méchant de Jean de La Fontaine, interprété par les frères Jacques. Alors, j'ai un petit doute, hein. YouTube crédite que les paroles sont de Jean de La Fontaine et la musique aussi. Ça m'étonnerait quand même. Et précisons-le, la version liproclamée de Jeff des Sources, Gérard Durand, est une version effectivement sans lettre A, ce qui tombe bien quand on veut éviter de dire Alléluia, de parler de l'armée, et voilà. Allez, ah, ils sont en train de brancher.
Casser un micro.
Voilà, c'est bon.
Ah, tout est bon.
Il était un peu coincé. Voilà. Heureusement, la catastrophe est évitée.
Voilà. Bon, on va commencer par Monsieur Lecard. Un petit texte très petit et l'autre un petit, tout petit peu plus grand. Il faut du bonheur et rien d'autre. Comme disait Anton Grindel, et sans appât et sans apôtre, sans pathos et sans patte nôtre, maître du sien, maître du nôtre. Toupet. Quel toupet. Mais quel toupet. Quel toupet. À vos yeux, le premier des suspects, ce n'est pas celui qui se repaît du sang, mais de celui qui veut la paix. Vos prisons sont pleines d'innocents. Vos raisons d'état pleines de sang. Vos saisons effacent en passant vos oraisons, manèges incessants. Quelle toupie. Quelle toupie. Quelle toupie. La planète tourne en dépit du bon sens. Tourne mal en pis, d'une guerre à l'autre sans répit. Vos héros ne sont pas fatigués, vous savez les faire naviguer, tant et tant sont prêts à s'impliquer, que vos champs sont toujours irrigués. Quel troupeau, quel troupeau, quel troupeau, tous ces gens prêts à donner leur peau pour défendre un quelconque drapeau, Satan trouve de nouveaux suppôts. Il suffit de les prendre en bas âge et de leur donner pour tout bagage l'amour sacré de vos vieux adages et les voilà tout prêts pour le carnage. Quel toubib ! Quel toubib ! Quel toubib saura mettre fin à ces lubies, ces tueries que le peuple subit ? Serait-ce à jamais une utopie ? Y aura-t-il un remède, un vaccin contre tous ces projets assassins pour ne plus entendre le tocsin ? On n'est ni des héros, ni des saints. Quel toupet, quel toupet, quel toupet. Nous voulons simplement vivre en paix, sans être empêtrés dans vos clapets. Nos idées méritent le respect. Au nom de tous les enfants qui ont peur, au nom de tous les monuments en fleurs, et contre tous les chants du déshonneur, que ce chant soit celui du bonheur.
Dans la prison de Nantes, il y avait un prisonnier, attendant la sentence, mais déjà condamné. Condamné au silence, l'Andelinda. Condamné au silence depuis plusieurs années. On l'emmène à juger, un complice à l'audience, met en joue le greffier, impose le silence, l'Andelinda, impose le silence à toute l'assemblée. Le tribunal de Nantes sur leur état siégé, l'accusé parlemente avec les policiers, libère une étudiante, l'Andelinda, libère une étudiante, la presse élève. Thank you.
braves gens de France, la reine à la télé. Disent faut le descendre, le pendre, le brûler. Le dans les rues de Nantes, l'Andélie, l'Andélie, là. De dans les rues de Nantes, s'enfuit le révolté.
Il finit par se rendre, n'a pas le sang versé. Il a tenté sa chance, ne l'auriez-vous tenté? Et dans l'indifférence, l'Ambélina. Et dans l'indifférence, Courtois reste prisonnier.
Eh ouais, on continue comme ça, le clin d'œil, comme la semaine dernière et la semaine précédente, en hommage à Corbineau de Trianne. Effectivement, l'un des trois gens, c'est l'une des trois voix. Là, ils chantaient tous les trois, tout bêtement, dans une version sans instrument derrière, a cappella. Alors, ça date de l'album, je ne sais plus si c'est l'album Portrait ou c'est un album des années 90, si je me souviens bien, et l'histoire qui est évoquée date, elle, de 85. Courtois, Georges Courtois, décédé depuis, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, braqueur, donc pas forcément sympathique, et qui, au milieu du palais de justice, avait réussi une prise d'otage et à se barrer, effectivement. Alors, ce fut assez rocambolesque. Tout est raconté, d'ailleurs, soit dans l'histoire telle qu'elle est narrée ici par Trianne, avec on libère les prisonniers et il finit par se faire choper. Il me semble que c'était Robert Broussard qui avait été foutu à ses trousses pour le coincer. Et, Georges Courtois est mort en 2019 à Quimperlé, à l'âge de 71 ans, mais après avoir été longuement incarcéré, effectivement. Une chanson, ma foi, assez étonnante et déroutante, peut-être, de la part de Trianne. Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Alors, le poème en question s'appelle Inoni. Alors, avant de vous le lire, les notes sont importantes pour bien comprendre l'intrigue. Alors, Inoni, littéralement pays d'ailleurs, cité idéale de justice et de bonheur dont rêvait plus d'un utopiste en Russie dans les années 20. Essénine écrivait à propos de ce poème, début 1918, je me rendis compte que le vieux monde avait vécu. Rompant avec Bloch et Bielli, j'écrivis Inoni qui me valut une dégelée de critiques et le sobriquet de hooligan. À en croire Bloch, Essénine se défendait néanmoins de toute intention blasphématoire. Il haïssait le conformisme d'une orthodoxie liée au pouvoir politique, lui préférant l'attitude rebelle de vieux croyants comme son grand-père et son ami Kliouef ou le cri d'un Ivan Karamazov. Et il y aura dans le poème, dans les fragments, l'expression « les étoiles navrant », donc qui est expliquée ici de cette façon. Selon une représentation populaire, les étoiles sont les têtes de clous d'or plantées dans le firmament. Donc, voici donc, l'a dit poème Inoni, des fragments. Le poème étant très long, là il s'agit de fragments qui ont été publiés. Et Céline l'a dédicacé au prophète Jérémie. La mort ne me fait pas peur, ni les lances, ni les pluies de flèches. Ainsi parle comme la Bible, Sergueï Essénine, le prophète. Mon heure a sonné. Le fouet du Knout ne m'effraie pas. Le corps du Christ, je le recrache de ma bouche. Je refuse un salut au prix de ses souffrances et de la croix. D'astre qui pénètre l'éternité, je tire ma leçon à moi. Je vois un avènement où sur la vérité ne dansera plus la mort. Comme une brebis de sa toison impure, je tondrai le firmament bleu. Je lèverai les mains vers la lune et la briserai comme une noix. Je ne veux pas d'un ciel sans échelle. Je ne veux pas que tombe la neige. Je ne veux pas que l'aurore prenne sur les lacs un air morose. Aujourd'hui, comme la poule, je pondrai l'œuf d'un verbe d'or. Aujourd'hui, d'une main experte, je renverserai le cours du monde. Déjà de mes épaules, 8 ailes sont déployées comme un bruit de tonnerre. Entendez-vous sur la Russie battre le tocsin? Ce sont les pleurs des murs du Kremlin. À la pointe de mes pics d'étoiles, aujourd'hui, terre, je te brandis. Du genou, je comprimerai l'équateur et dans un maelstrom de pleurs, briserai en deux le petit pain doré qu'est notre mère la terre. En guise de rayon lumineux, dans la faille ouverte sur l'abîme ténébreux, pour que tout l'univers en perçoive le craquement, je fourrai ma tête blonde auréolée d'étoiles. 4 soleils surgit des nuées, comme 4 tonneaux dévalant la montagne dont les cerceaux d'or roulent de tous côtés, dans leur course ébranleront les mondes. Par les nues comme par le val, moi je vais tête en bas. J'entends clapoter l'onde bleue, siffler des luminaires au bec étroit. Dans les anses azurées de mes lacs lointains, je me reflète. Et je te vois, mon Inoni, sous les bonnets d'or de tes monts. Je vois tes plaines et tes masures, et sur le perron, ma vieille mère, où, du bout des doigts, elle tente de saisir du couchant le dernier rayon. Elle le coince à la lucarne et l'attrape non sans mal. Mais sitôt d'une patte féline, le soleil tire la pelote à soi. Au doux fredonnement du ruisseau, des notes s'égrènent dans la montagne, gouttes d'invisibles candélabres. Elle ricoche au fond du val. Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix aux hommes sur terre. De sa corne bleue, la lune a pénétré les nues. De l'œuf d'une étoile, quelqu'un a extrait l'oie qui picore les traces du radieux Jésus. Porteur d'une foi nouvelle, ignorant, croix et tourment, il tend un arc-en-ciel à travers le firmament. Sion, réjouis-toi que ruisselle ta lumière. À l'horizon paraît un nouveau Nazareth. Il s'avance sur son annon, le nouveau sauveur du monde. Notre foi est dans notre force, notre vérité en nous. Donc écrit en janvier 1918. Merci.
Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью. Вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. И муравья тогда покой покинул, все показалось буднишним ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновение, она возникла из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней. Все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, грустные, как жители земли.
On est resté dans la langue russe avec Bulat Okudiava, celui qu'on a souvent comparé à Brassens et qu'on a qualifié de barde russe, et dont l'oncle d'ailleurs était un terroriste anarchiste qui avait, je crois, tenté d'attenter à la vie du tsar vers les années 10 et quelques. Faudrait que je vérifie ça plus précisément. Radio Libertaire, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques pour encore une heure. Alors, c'est à qui maintenant? Maintenant,
d'accord. Donc Marcel Schwab, qui est né en 1867 et mort en 1905, écrivait des nouvelles. Celle-ci a pour titre Le train 081. Du bosquet où j'écris, la grande terreur de ma vie me paraît lointaine. Je suis un vieux retraité qui se repose les jambes sur la pelouse de la maisonnette et je me demande souvent si c'est bien moi, le même moi qui ai fait le dur service de mécanicien sur la ligne PLM. Et je m'étonne de n'être pas mort sur le coup, la nuit du 22 septembre 1865. Je peux dire que je le connais, ce service de Paris à Marseille. Je mènerai la machine les yeux fermés par les descentes et les montées, les entrecroisements de voies, les embranchements et aiguillages, les courbes et les ponts de fer. De chauffeur de troisième classe, j'étais arrivé mécanicien de première. Et l'avancement est bien long. Si j'avais eu plus d'instructions, je serais sous-chef de dépôt. Mais quoi, sur les machines, on s'abêtit. On peine la nuit, on dort le jour. De notre temps, la mobilisation n'était pas réglée. Comme maintenant, les équipes de mécaniciens n'étaient pas formées, nous n'avions pas de tours réguliers. Comment étudier? Et moi surtout, il fallait avoir la tête solide pour résister à la secousse que j'ai eue. Mon frère, lui, avait pris la flotte. Il était dans les machines des transports. Il était entré là-dedans avant 1860, la campagne de Chine. Et la guerre finie, je ne sais comment il était resté dans le pays jaune, vers une ville qu'on nomme Canton. Les yeux tirés l'avaient gardé pour leur mener des machines à vapeur. Sur une lettre que j'avais reçue de lui en 1862, il me disait qu'il était marié et qu'il avait une petite fille. Je l'aimais bien, mon frère, et cela me faisait deuil de ne plus le voir. Et nos vieux aussi n'en étaient point contents. Ils étaient trop seuls dans leur petite cahute, en campagne, tirant sur Dijon. Et leurs deux gars partis, ils dormaient tristement l'hiver, à petits coups, au coin du feu. Vers le mois de mai 1865, on a commencé à s'inquiéter à Marseille de ce qui se passait au Levant. Les paquebots qui arrivaient apportaient de mauvaises nouvelles de la mer Rouge. On disait que le choléra avait éclaté à la Mecque. Les pèlerins mouraient par milliers. Et puis la maladie avait gagné Suez, Alexandrie. Elle avait sauté jusqu'à Constantinople. On savait que c'était le choléra asiatique. Les navires restaient en quarantaine au lazaret. Tout le monde était dans une crainte vague. Je n'avais pas grande responsabilité là-dedans, mais je peux dire que l'idée de voiturer la maladie me tourmentait beaucoup. Sûr, elle devait gagner Marseille. Elle arriverait à Paris par le rapide. Dans ce temps-là, nous n'avions pas de bouton d'appel pour les voyageurs. Maintenant, je sais qu'on a installé des mécanismes fort ingénieux. Il y a un déclenchement qui serre le frein automatique et au même moment, une plaque blanche se lève en travers du wagon, comme une main, pour montrer où est le danger. Mais rien de semblable n'existait alors. Et je savais que si un voyageur était pris de cette peste d'Asie, qui nous étouffe en une heure, il mourrait sans secours et que je ramènerais à Paris, en gare de Lyon, un cadavre bleu. Le mois de juin commence et le choléra est à Marseille. On disait que les gens y crevaient comme des mouches. Ils tombaient dans la rue, sur le port, n'importe où. Le mal était terrible. Deux ou trois convulsions, un hoquet sanglant et c'était fini. Dès la première attaque, on devenait froid comme un morceau de glace et les figures des gens morts étaient marbrées de taches larges comme des pièces de 100 sous. Les voyageurs sortaient de la salle aux fumigations avec un brouillard de vapeur puante autour de leurs vêtements. Les agents de la compagnie ouvraient l'œil, et dans notre triste métier, nous avions une inquiétude de plus. Juillet, août, la mi-septembre se passe. La ville était désolée. Mais nous reprenions confiance. Rien à Paris jusqu'à présent. Le 22 septembre, au soir, je prends la machine du train, 180, avec mon chauffeur, Gralepoix. Les voyageurs dorment dans leur wagon la nuit, mais notre service à nous, c'est de veiller, les yeux ouverts, tout le long de la voie. Le jour, pour le soleil, nous avons de grosses lunettes à cage, encastrées dans nos casquettes. On les appelle des lunettes mistraliennes. Les coques de verre bleu nous garantissent de la poussière. La nuit, nous les relevons sur notre front et, avec nos foulards, les oreilles de nos casquettes rabattues et nos gros cabans, nous avons l'air de diables montés sur des bêtes aux yeux rouges. La lumière de la fournaise nous éclaire et nous chauffe le ventre. La bise nous coupe les joues, la pluie nous fouette le visage et la trépidation nous secoue les tripes à nous faire perdre haleine. Ainsi, caparaçonnés, nous nous tirons les yeux dans l'obscurité à chercher les signaux rouges. Vous en trouvez bien des vieillis dans le métier que le rouge a rendu fou. Encore maintenant, cette couleur me saisit et m'étreint d'une angoisse inexprimable. La nuit, souvent, je me réveille en sursaut, avec un éblouissement rouge dans les yeux. Effrayé, je regarde dans le noir. Il me semble que tout craque autour de moi, le sang me monte à la tête. Puis je pense que je suis dans mon lit et je me renfonce entre mes draps. Cette nuit-là, nous étions abattus par la chaleur humide. Il pleuvotait des gouttes tièdes. Le copain Gralepoix enfournait son charbon par pelletées régulières. La locomotive balait et tanguait dans les courbes fortes. Nous marchions 65 à l'heure, bonne vitesse. Il faisait noir comme dans un four. Passé la gare de nuit en roulant sur Dijon, il était 1h du matin. Je pensais à nos deux vieux qui devaient dormir tranquillement, quand tout à coup j'entends souffler une machine sur la double voie. Nous n'attendions entre nuit et Dijon, à 1h, ni train montant, ni train descendant. « Qu'est-ce que c'est que ça, Gralepoix ? » dis-je au chauffeur. « Nous ne pouvons pas renverser la vapeur. »« Pas de pétard, dit Gralepoix. C'est sur la double voie. On peut baisser la pression. » Si nous avions eu, comme aujourd'hui, un frein à air comprimé. Lorsque soudain, avec un élan subit, le train de la double voie rattrapa le nôtre et roula de front avec lui. Les cheveux m'en dressent quand j'y pense. Il était tout enveloppé d'un brouillard rougeâtre. Les cuivres de la machine brillaient. La vapeur fusait sans bruit sur le timbre. Deux hommes noirs dans la brume s'agitaient sur la plateforme. Ils nous faisaient face et répondaient à nos gestes. Nous avions sur une ardoise le numéro de train marqué à la craie 180. Vis-à-vis de nous, à la même place, un grand tableau blanc s'étalait avec ses chiffres en noir 081. La file des wagons se perdait dans la nuit et toutes les vitres des quatre portières étaient sombres. En voilà d'une histoire, dit Gralepoix. Si jamais j'aurais cru... Attends, tu vas voir. Il se baissa, prit une pelletée de charbon et le jeta au feu. En face, un des hommes noirs se baissa de même et enfonça sa pelle dans la fournaise. Sur la brume rouge, je vis ainsi se détacher l'ombre de Gralepoix. Alors une lumière étrange se fit dans ma tête et mes idées disparurent pour faire place à une imagination extraordinaire. J'élevai le bras droit et l'autre homme noir éleva le sien. Et je lui fis un signe de tête et il me répondit. Puis aussitôt, je le vis se glisser jusqu'au marchepied et je sus que j'en faisais autant. Nous longeâmes le train en marche et devant nous, la portière du wagon AAF 2551 s'ouvrit. Ah, elle s'ouvrit d'elle-même. Le spectacle d'en face frappa seul mes yeux. Et pourtant, je sentais que la même scène se produisait dans mon train. Dans ce wagon, un homme était couché, la figure recouverte d'un tissu de poils blancs. Une femme et une petite fille, enveloppées de soieries, brodées de fleurs jaunes et rouges, gisaient inanimées sur les coussins. Je me vis aller à cet homme et le découvris. Il avait la poitrine nue, des plaques bleuâtres tachaient sa peau. Ses doigts crispés étaient ridés et ses ongles livides. Ses yeux étaient entourés de cercles bleus. Tout cela, je l'aperçus d'un coup d'œil et je reconnus aussi que j'avais devant moi mon frère et qu'il était mort du choléra. Quand je repris connaissance, j'étais en gare de Lyon. Gralepoix me tamponnait le front. Et il m'a souvent soutenu que je n'avais pas quitté la machine. Mais je sais le contraire. Je criais aussitôt « Courez au AAF 2551 !» Et je me traînais jusqu'au wagon et je vis mon frère mort comme je l'avais vu avant. Les employés fuirent épouvantés. Dans la gare, on n'entendait que ces mots « Le choléra bleu !» Alors Gralepoix emporta la femme et la petite qui n'était évanouie que de peur. Et comme personne ne voulait les prendre, il les coucha sur la machine dans le poussier doux du charbon avec leurs pièces de soie brodées. Le lendemain, 23 septembre, le choléra s'est abattu sur Paris après l'arrivée du rapide de Marseille. La femme de mon frère est chinoise. Elle a des yeux fendus en amande et la peau jaune. J'ai eu du mal à l'aimer, cela paraît drôle, une personne d'une autre race, mais la petite ressemblait tant à mon frère. Maintenant que je suis vieux et que les trépidations des machines m'ont rendu infirme, elles vivent avec moi et nous vivons tranquilles. Sauf que nous nous souvenons de cette terrible nuit du 22 septembre 1865, où le choléra bleu est venu de Marseille à Paris par le train 081.
S'arrimer l'hiver à vos trompes, votre angoisse. génie de femme. Vous y croyez presque sur votre visage. Les injures de l'âge font place au grotesque. Le sirop qu'on joue dans sa chevelure qui voile l'azur de son regard doux. Venise distille quelque mer poison qui aura raison de son corps fragile. Devenez l'ami qui prévient le drame, alertez la dame de l'épidémie. Pourquoi êtes-vous revenu de la gare? Vous n'auriez jamais dû, monsieur, à Chenepart. Mais la voir s'enfuir avec ses enfants, là, le cœur vous fend. Plus que de mourir, mieux vaut être sage. Et ne soufflez pas pour revoir Tatio demain sur la plage. Frêle adolescent dont la silhouette tourne en votre tête, astreint incandescent, vous voudriez bien toucher votre rêve. Au loin sur la grève, il vous tend la main, puis il disparaît dans l'océan rose. La vie vous dépose au dernier arrêt. Il est bien trop tard pour dire votre amour. Juste un soupir lourd, monsieur Hachenbaum. Vous n'auriez jamais dû, monsieur, à Chenepart. La mort est survenue, monsieur, à Chenepart.
Pour illustrer le texte de Marcel Schwob proposé par Michel, j'avais le choix, dans la mesure où il y avait le thème de la locomotive, j'avais calé quand même sur une platine le train fatal, version de la bête humaine de Zola, interprétée par Raoul de Godswarzel, mais comme le thème de la peste était présent effectivement, je suis allé chercher la mort à Venise, puisque effectivement, dans cette chanson de Alain Orange, on peut voir soit un livre, soit un film. Le livre, c'est effectivement La mort à Venise de Thomas Mann, avec M. Hachenbar qui s'est installé dans son hôtel pendant l'épidémie de peste et qui découvre le jeune Tadzio. Et M. Hachenbar mourra sur la plage en regardant Tadzio dans le lointain. Et puis, ça peut vous évoquer aussi le film de Visconti, et c'est normal puisque le film de Visconti vient du texte de Thomas Mann. Radio Libertaire 89,4 MHz.
Oui, la bonne pâte qui est dédiée pour toi Loïc, d'être un de ses fils. Et Dieu reconnaîtra les chiens à leur façon sans doute de lever la pâte, devant la devanture peut-être d'un boulanger en train de lever la pâte. Il faut bien reconnaître, mon Dieu, que les chiens et les boulangers ne lèvent pas la même pâte, ce qui montre bien que l'accent circonflexe, si complexe, c'est pas fait pour les chiens, sinon pour les bâtards et les matins. Le boulanger nous donne notre pain quotidien, moyennant, il est vrai, quelques menus monnaies, alors que le chien ne nous donne rien, rien que son regard, ses yeux de chien pâtu, pâteau, son coup de langue oblongue, ses battements de queue, et tout son temps de chien en échange de quoi? En échange de rien, rien que notre regard, rien que notre tendresse, notre temps de reste et sa quotidienne pâtée, ce qui montre bien que l'accent si complexe, circonflexe, le chien n'en fait qu'une bouchée, et le boucher n'est pas chien. Il faut bien reconnaître, mon Dieu, qu'il est plus facile de reconnaître les chiens dans la rue que les boulangers ou les bouchers, lesquels, hors du fournil et hors du magasin, sont des gens comme vous et moi. Mais nom d'un chien, ce n'est pas parce que le chien du boulanger est un bâtard qu'il doit le mener à la baguette. S'il est dans le pétrin, son chien, le chien n'y est pour rien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il paraît que les chiens courants sont plus courants que les chiens d'arrêt. Les chiens d'arrêt ne sont pas courants, ils ne courent pas. Ils ne courent pas les rues. Celui qui court les rues et se rue dans les cours, c'est le chien errant, errant, errant en plan. Le chien errant est différent du chien d'arrêt, lequel est indifférent au chien courant, sauf quand ils ont un différent, ce qui n'est pas courant. Quand les chiens errants voient un chien courant, ils courent après. S'ils voient un chien d'arrêt, ils s'arrêtent, sauf si c'est un chien taré. Les chiens tarés sont faciles à reconnaître. Ils se balancent. Il peut y avoir des chiens errants tarés, des chiens tarés errants. Les chiens, des chiens courants comme des dératés, des chiens courts sur pattes, d'autres qui se carapatent, des chiens pansés et des chiens chilas, tant pis si c'est pas sur le tapis. Des chiens enragés qui t'arrachent les jarrets, des chiens encagés qui jappent sans arrêt, des chiens loups, des chiens louches, des chiens dont on ne sait pas. Dans sa niche, sûrement, vu que le chien est le seul animal qui peut dormir dans son anagramme, il y a autant de chiens que de maîtres, plus même certains maîtres où ont plusieurs chiens. Il y a aussi des chiens sans maître, des chiens errants, c'est aberrant. Sans oublier les chiens assis. Les chiens assis, avec ou sans maître, quoique 600 mètres, on ne voit plus le chien. Mais qu'y a-t-il ? Y a-t-il des maîtres sans chien ? De quoi sont-ils maîtres alors ? Si je puis me permettre. Maître d'école, celui qui s'occupe des colliers. Certains maîtres vont mettre des colliers à leurs collets pour aller poser des collets dans les halliers. Eux peuvent se poser des cols à l'écolier. Bref, on peut très bien être maître de soi-même et avoir du chien, sans pour autant être un cabot. Voyez Lucien. Lucien le boulanger, vous connaissez Lucien. Lucien aime bien son chien, enfin sa chienne. Mais ce qu'il n'aime pas chez son chien, enfin sa chienne, c'est que sa fâcheuse tendance à lécher les siens. Pas les chiens, les siens, la famille de Lucien. Chaque pas que Lucien va chez les siens, avec son chien, enfin sa chienne, il craint que sa chienne, alléchée par les siens, n'aille lécher après avoir léché les déchets. C'est assez chiant. Les siens ont beau prendre un air détaché, si elle les lèche, elle les tâche, et quand ça sèche, ça laisse des traces. Quand on connaît un chien comme ça, qui lèche les gens, sachez qu'on a le choix. On le laisse chez soi ou on le prend en laisse. Alors, pour ne pas se fâcher avec les siens, on aurait assez du chien. Lucien préfère voir sa chienne en laisse que les siens en lèche. Bon, je vous laisse. Je voulais juste vous raconter cette histoire de chien, mais je vois que vous me regardez en chien de faïence. Alors, je vous laisse. Il faut que j'aille retrouver le mien, mon chien. Il a cassé sa chaîne, il s'est déchaîné, il est parti retrouver sa chienne, enfin, la chienne du boulanger Lucien, et ils sont partis en voyage de Nonos.
S'il y a des cloches pour les chiens qui meurent, que sonnent les cloches pendant une heure. Il est mort de m'attendre au coin d'une rue. C'est tant pis pour moi, je ne suis pas venu. Pourtant, j'avais dit au printemps, avec les fleurs, les vents d'avril, les hirondelles l'ont fait des mille. Lui dire que j'étais au tournant. Il m'a attendu tout l'été, pour qu'ensemble on aille courir dans les champs. Je lancerai dans la coulée le bâton qu'il tient entre les dents. Quand l'automne est venu, il a vu que peut-être je ne reviendrai plus. Il s'est reculé au fond de la cour, à pleurer la chute des jours. Un voisin lui a dit, t'en fais pas, espère un peu, encore un mois. Un ami lui a dit, viens chez moi, j'ai des enfants, on ne guérira. Mais non, il a attendu la neige, et elle l'a pris comme un sortilège. Il a dit, elle le ramènera. Mais j'ai failli encore une fois. Et puis, écœuré de l'amour, des charités, des beaux discours, il s'est roulé au coin de la rue, attendit qu'on lui passe dessus. S'il y a des cloches pour les chiens qui meurent, que sonnent les cloches pendant une heure. Il est mort de m'attendre et je l'ai déçu. Je mériterais qu'on ne m'aime plus. Pourtant,
avec des intonations qui rappellent effectivement Félix Leclerc, c'est François Béranger sur l'album qu'il avait consacré justement à Félix avec 19 chansons de Félix Leclerc. Il me semble que c'était effectivement le dernier album qu'avait enregistré François Béranger. Donc ici c'est le blues pour Pinky, effectivement, que Leclerc avait écrit pour son chien. Et j'avais le choix dans les chansons que les artistes consacraient à leur animal de compagnie, même s'il y a des chiens policiers que certains de fait préfèrent les chats. Allez, petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie. On va choisir, alors on a deux morceaux possibles, un de 3 minutes 37, un de 6 minutes 16. Celui de 3:37 s'intitule « Hier » par Jean-Marie Blanche. On va commencer par celui-là.
Alors, un poème... Un poème. Vous voulez un poème ? Voilà un poème. Hier, poème étroit. Hier, absent et déjà là, corps des sauvages. Poème trop étroit. Un, deux, trois. Hier te cherche comme un bec d'aigle. Sors de l'ombre, Baptis. Quatre. 5, 6. Hier est une sortie d'oiseau sur le créneau de pierre moisi et toujours tendre. Traverse le pont neuf. 7, 8, 9. Hier se balance. Inquiétude d'arbre volé dans le désert. Cueille une belle arbouse. 10, 11. 12. Hier est une voile sourde au bout du mât crémeux. Offre-la au beau prince. 13, 14, 15. Il faut que j'y batte mes ailes de chair d'une solitude connue. Candide antisémite. 16, 17, 18. Hier, en surplombant l'orage, faisant germer enfin ton cœur d'ange, hier lui offre l'écho d'une colonne ravie sous mes doigts, en bon nazaréen, 19, 20, 21. Adieu, aveugle, une chair honteuse a anéanti quelques cercueils où dort le jour multiplié de tes offres. Adore Dieu te battre, 22, 23, 24. Oui, hier, au-dessus des bouquets, ne te soulève qu'étonné. Oh, sans bruit, toi qui touches la mort, Moïse n'est pas prophète. 25, 26, 27. Hier, béni, tu as le béret neuf d'un aventurier dans les cieux, la pierre qui joue avec ton soulier, une erreur d'un P30. 28, 29, 30. Hier en fuite, hier demain, hier déjà te cherche, toi qui te crois, doux goutte d'encre sauvage. Dieu, Fils et Saint-Esprit, 31, 32, 33, à l'infini.
Bravo.
Merci.
J'avoue, 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 j'en ai bavé par vous, mon amour. Qu'avons-nous vu de
Mettez-moi une voix féminine qui chante à l'unisson toute seule, je suis déjà ému. Mettez-moi deux voix féminines, je suis ému. Mettez-moi en trois, je suis très ému. C'est ici la version reprise de la javanaise par le groupe L.I.J., Lucie, Elisa et Juliette. Et je vous avais passé la semaine dernière, qu'est-ce que je vous avais passé ? Mon amant de Saint-Jean, avec au milieu un petit gimmick repris de... Mistral gagnant de Renault, et là ben, je vous ai choisi effectivement cette javanaise sur l'antenne de Radio Libertaire, 16h37, tout ça parce que Jean-Marie a compté comme un fou tout à l'heure avec des chiffres partout dans son texte, alors il faut moi aussi que je vous donne l'heure précise et que je vous dise qu'à 17h ça sera bulle noire, mais pour l'instant...
Alors, Daniel Gélin a choisi pour vous un poème de Pierre-Emmanuel, intitulé « Interrogatoire ». Pierre-Emmanuel l'a dédicacé à Claude Vigée. « Je ne remplirai plus vos questionnaires. Je ne sais comment je m'appelle, qui est ce « je » qui appelle, ni ce « moi » qui est appelé, ni ce « je » entre « je » et « moi ». Cette vie est tu et à toi. C'est de si partageant cet un-là, un seul masque et deux faussetés. Vous me demandez où j'étais avant d'être au sein de ma mère. J'étais où je suis quand je rêve que mon père n'est pas encore né. Dans la sève qui ne jaillit pas, le fleuve blotti dans la fente, tel Adam existe et n'est pas avant qu'Ève, naissant de lui, ne l'enfante. Il y a 40 ans que je ne suis pas née, ou 1000, ou la durée du monde. Il y a 40 ans que j'occupe mon corps sans être ici. Où est mon poids, c'est là ma place. Nulle part, je ne suis présent. J'habite là, un lieu donné, mais non reçu. Là, vous êtes, là où vous êtes. Qui sommes-nous ? Des voix sans écho, des feux follets sur la boue séminale, feux détrempés sans force pour saisir la terre au four, la chair, dans une forme, toute parole et bulle de limon. Nous épuisons en perte spermatique l'excès des mots, l'esprit sans érection. Sèche étincelle où la mère se concentre, tête du sexe ou logos géniteur. Nous sommes trop fémelins, trop humides, trop amollis par nos étreintes vides, pour t'ériger dans l'axe du soleil, pour prendre appui au mur de nos vertèbres et nous dresser à pic et vivre ici. Est-il besoin d'océans de semences pour contenir la postérité d'Abraham ? Il y suffit d'un pleur de la rosée. Encore faut-il que ce pleur soit versé pour que s'infuse en lui l'aube première. Celui qui laisse une femme au matin, fraîche et mouillée comme rose au jardin, il est le père de tous les hommes. Il est fondé sur l'orgueil de ses reins, la glorieuse humilité de ses reins. Il est le même innombrable. Il est un, multiplié par le ciel plein d'étoiles et par l'écume au ventre de la mer. Homme debout, tel un forêt d'hommes. Quand il dit « je », chacun se nomme en lui. Sa frondaison bourgeonne de visage, qu'étend ses yeux pour s'y voir défini. Oui, vraiment, « je » que nul « moi » n'incarcère, centre parfait qui rayonne et s'oublie. Il a le temps d'être un dans tous ses frères, et tout entier ici et maintenant. Foyer infime et raison de la sphère, il est élu de l'éternel présent. » Donc, poème extrait du recueil « Versant de l'âge », édition du Seuil.
Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié. Vous me le direz, je l'ai oublié. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je le les oublier. Vous me le direz, je les oubliais. Quand je pris 15 ans, que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lilas, j'appris que j'étais ventre et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Je les oubliais. Quand je fus berceau et puis biberonne, j'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveillais un matin torchonne, j'étais marmitasse et Pierre Dévier. J'étais ravaudière, j'étais routine, on m'appelait soupe, on m'appelait pas. J'étais paillasson, carreau de cuisine, entrave à mes propres pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais. Puis un jour, du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient. Plaisir et douleur, souvenirs en trombe, et j'étais vivante et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader, je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. C'est maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle, et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai.
Oui, la voix d'Anne Sylvestre est facilement reconnaissable et il me semblait que pour un interrogatoire sur qui vous êtes, ça me semblait assez pertinent. Si vous avez pris des notes la semaine dernière, je vous avais promis pour cette semaine une intervention de Sophie. En fait, elle est, nous dit-elle, dans son sud-ouest natal, mais pour le 21, elle nous a préparé une thématique de quelques textes sur le thème des lieux, avec deux textes personnels du Vian, Boris, je crois, ça doit être ça, Vian c'est Boris, c'est ça, et Prévert, il me semble que là c'est Jacques. Et si vous avez pris des notes depuis le début de cette émission, vous savez aussi qu'il y a un deuxième texte proposé par Evelyne et Jean-Marie.
Il était sorti d'une feuille de papier où il était écrit « Hélas ». Aussi loin que les plantes soupirent et se penchent, il a pris son essor, aussi libre que celui qui glisse, pour raconter un rêve biscornu. J'ai piqué un mot au hasard dans le dictionnaire qui me cria. Tu ne manques pas d'air. L'insecte tournoya un instant juste au-dessus de mon nez. Il était fabuleux comme une histoire sans tête. Il riait à gorge déployée. Vous ne me croirez pas, mais cet insecte avait écrit le mot « hélas » simplement en lisant sur les lèvres d'un inconnu qui avait salué le printemps. C'est qu'à l'origine de cet « hélas », ce drôle d'insecte, capable de griffonner son nom sur les feuilles d'arbres, il y eut un homme couché par terre qui rendit son dernier soupir en disant « hélas. » Et ce jour-là, il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel. Mais cet insecte sortit tout droit du cri du cœur de quelque inimaginable, éphémère hominidée, a tendance à s'orienter toujours là où les villes s'endorment, là où les murs sont nus, au-dessus de mains voyageuses, il s'empare de tous les regrets muets. Regard désolé et princier sur leur souche d'ombre. Comme il fendrait une larme au soleil, son corps entier est une harpe. Ô souvenir, je vous ai trop bu et je n'ose voir deux arbres qui se touchent, mais crois entendre quelque essac insecte, hélas, sur l'eau croupie d'un banc public. Prendre son envol, et c'est heureux. Hélas, voltige encore au-dessus des nuées.
Surtout quand le vent d'octobre de ses doigts glacés punit mes cheveux, pris comme un crabe dans le soleil, je marche autour du feu et mon ombre portée est un crabe sur terre. Le long du bord de mer, j'écoute les oiseaux tapageurs et le corbeau qui pousse dans le bois sec de l'hiver. Mon cœur affairé qui tremble quand elle parle perd le sens syllabique et draine ce qu'elle dit. Enfermé, moi aussi, dans une tour de mots, je trace sur l'horizon qui marche comme des arbres de verbeux corps de femmes, et dans le parc les files d'enfants aux gestes d'étoiles. Certains me laissent faire avec des voyelles les êtres, d'autres avec les voix, les chaînes, ou avec les racines, te donner des nouvelles de maintes régions d'épines. Les uns me laissent faire avec le caquetage de l'eau derrière un pot de fougère. L'horloge qui jacasse me dit le mot de l'heure, la signification des nerfs vole sur le balancier, déclame le matin et dit le mauvais temps qui fait tourner le coq. Certains me laissent faire avec des signes, des prés, l'herbe éclatante qui me dit tout ce que je sais, pointe dans l'œil avec l'hiver véreux. Certains me laissent faire avec les péchés du corbeau. Certains me laissent faire avec les sortilèges de l'automne, les langues d'araignées et les collines sonores de galles. Certains me laissent faire quand le vent d'octobre punit la terre de ses points de rave. Certains me laissent te faire avec les mots sans cœur. Le cœur est ponctionné, épelant dans le tourbillon du sang chimique, averti de la fureur qui monte le long du bord de mer. Écoute les voyelles sombres des oiseaux. Dylan Thomas. Merci.
Et voilà, c'était donc deux textes offerts par Evelyne et Jean-Marie. J'en profite pour signaler d'ailleurs qu'Evelyne a édité aux éditions du Net, je crois, un petit bouquin intitulé « Nouvelles radiophoniques » avec quelques-uns des textes qu'elle a eu l'occasion de nous livrer sur cette antenne. Et maintenant, avec l'aimable autorisation de l'émission Civis Pacem, c'est Ariel ou Elsa ?
Ah ben, j'ai un texte, mais Elsa va passer avant moi. Un texte de mon père que va lire.
Alors voilà un autre texte, que Papy Jean a écrit au sujet des femmes lesbiennes. Son titre numéro 20. Nous sommes les amoureuses de rêve que l'on rencontre dans les nuits des filles. Nos étreintes les enveloppent de tiédeur et nos baisers couvrent leur jeune corps de volupté. Nous sommes les amies secrètes que l'on retrouve dans un bal de lesbiennes. La piste nous enlace de réserve et nos amitiés se nouent et se rompent comme nos danses. Nous sommes les femmes à femmes que l'on croise à une chair par alliance à la cheville. Nos yeux brillent dans leurs cernes noires et nos allures androgynes font la haine des êtres sans amour. Nous sommes les amoureuses des amoureuses que l'on reconnaît du bout des âges. Notre culte remonte à la première femme et notre vieillesse solitaire reste peuplée de souvenirs. Nous sommes aussi les anges blancs que l'on borde dans les couches sans douleur. Nous occupons la place des hommes et nos ventres condamnés demeurent lisses pour l'éternité. Écrit à Paris en janvier 1953.
Détour. Quand je tourne autour du pot, quand j'ai l'air maladroit, comme une poule ou un oie qui trouverait un chapeau, quand je me terre dans un silence obscur, je me sinécure dans un mur de mystère. C'est pas un stratagème, c'est pas d'autre que je t'aime. Quand je tourne autour d'un rêve, où tu me sens si loin, c'est toujours plus ou moins l'avenir qui fait grève. Quand j'essaye d'être drôle, même si je suis pas marrant, c'est pour pas être grand, mais c'est jamais drôle, c'est jamais qu'un rôle. Ce n'est pas un stratagème pour résoudre un dilemme. Quand je tourne et quand je vire, j'ai l'air désœuvré. C'est jamais pour de vrai, ni vraiment pour de rire. Quand je voudrais m'évader, secret et taciturne, quand je m'enfuis dans la lune, sans rien pour me guider, c'est pas un stratagème pour fuir quelques problèmes. Quand je tourne sans cette fois ma langue dans la bouche, quand je reste sur la touche comme un loup aux abois, quand j'ai l'air d'être à l'ouest dès le soleil levant, quand je reste souvent sans un mot, sans un geste, c'est pas un stratagème pour casser le système. Quand je me ferme comme une huître pour chercher une perle, jusqu'à ce que déferle des mots qui font le pitre dans ma tête qui boue, s'empêtre, s'enchevêtre, comme pour me mettre à bout, ce n'est pas un stratagème pour sortir de moi-même. Quand je m'enferme dans ma bulle, comme dans une tour, quand je n'ai plus rien autour, et que je déambule comme si j'étais ailleurs, sur une autre planète, disons, pour être honnête, dans un monde meilleur, c'est pas un stratagème. C'est qu'il y a en germe, tout au fond de moi-même, l'embryon d'un poème qui attend d'être à terme pour savoir en quel terme il te dira « je t'aime ».
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. En me tombant dans ciel d'orage, par un soir de novembre, je vole sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Pour s'en
bien partir faire son dur métier. Pauvre malheureux personnage, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la simple raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre.
En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à poison, que l'on a pu planter sur ta propre maison.
Le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.